OK, on va commencer notre 29e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Aujourd'hui, on va voir le 7e commandement dans la 3e partie et ça va être des leçons à tirer de ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle, quelques avertissements et des conseils. Alors, on avait vu que les 4 premiers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers Dieu lui-même. Le premier commandement concerne qui nous devons adorer. Quant au deuxième, comment nous devons adorer. Le troisième, que nous devons le craindre et ne pas utiliser son nom en vain. Le quatrième, qu'un jour sur 7 lui soit pleinement consacré pour l'adoration individuelle, familiale et collective et aussi pour le repos. Et les 6 derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre prochain. Ils sont les 6 piliers de l'ordre social du monde. Et ce n'est pas seulement des lois, mais aussi de l'amour. Le 5e commandement concerne nos devoirs envers nos parents et les autorités en général. Comme on peut le lire dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le 6e commandement concerne nos devoirs envers la vie humaine et la protection de la personne. Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point. » Et le 7e commandement concerne nos devoirs envers la sainteté de nos corps, du mariage et de la famille. Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Alors, on a déjà consacré 2 leçons au 7e commandement. On avait vu dans la première des observations générales sur le mariage. Dans la 2e, ce qui est requis, ce qui est défendu par le commandement. Et cette semaine, on va regarder certaines leçons qu'on se doit de tirer de notre étude du 7e commandement, ainsi que des avertissements et des conseils. Alors, on va commencer par les leçons. Qu'est-ce que le 7e commandement nous donne comme leçon? La première leçon, c'est que l'âme doit connaître les dangers des bris de ce commandement. Par exemple, dans Job, chapitre 31, versets 11 et 12, on apprend que du danger des regards impurs, parce que c'est relié à l'adultère, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Donc, la deuxième leçon, c'est que toute impureté, même en pensée, est contraire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitive passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » 3e leçon, c'est que toute impureté est contraire à la profession chrétienne. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Éphésiens, chapitre 5, verset 3 et 4, 3 à 5, c'est-à-dire que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 4e leçon, toute violation de ce commandement sont des signes d'une nature dépravée, l'ancienne nature. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Remarquez que les trois premières œuvres de la chair ont un rapport avec la sexualité. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cinquième, Dieu nous commande de mortifier nos affections coupables. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est le sixième, je pense. Les Écritures nous mettent en garde contre les effets désastreux de l'adultère. J'ai mis juste deux passages, mais dans le fond, il y en a beaucoup plus que ça dans toutes les Écritures. Proverbe 6, versets 32-35. « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié. Au jour de la vengeance, il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. » Proverbe 7, 21-23. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Septième, l'adultère et la fornication mènent à l'impiété. Alors, Osée, chapitre 4, verset 11, dans la version Osterval, ça dit « La fornication, le vin et le mou ôtent l'entendement. » Éphésiens, chapitre 4, verset 17 à 19, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Alors, huitième, la domination par ce péché peut être un signe de perdition à venir. Alors, j'en ai au moins quatre passages. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, on a vu quelques leçons qui sont tirées, qui sont applicables au septième commandement. On va regarder maintenant quelques avertissements concernant le septième commandement de Dieu. Alors, les pensées suivantes peuvent nous fournir des règles et des motifs utiles pour nous fortifier et nous aider à éviter des violations de ce précepte. Premier, le temps terrestre est court et l'éternité est proche. Le juge se tient à la porte. Que tout être humain se souvienne qu'il est mortel et fragile. Veillons sur nos cœurs avec beaucoup de vigilance. Deuxième avertissement, en toute chose, efforçons-nous de pratiquer la tempérance et la modération. Nous devrions toujours nous demander Est-ce que ma présente conduite serait approuvée par le Seigneur lorsque j'aurai à lui rendre des comptes? Troisième avertissement et conseil, rappelons-nous que Dieu est omniscient. La devise « Dieu me voit » est excellente dans toutes les occasions. Quatrième, rappelons-nous qu'il est absolument impossible pour tout mortel d'avoir des vues exagérées sur la gravité du péché. Le péché peut mener à l'enfer éternel. L'indulgence dans les péchés envers le septième commandement peut séduire notre nature charnelle, mais peut conduire à une grande amertume et même à de grands risques concernant notre destinée éternelle. Autre, que chacun se souvienne de sa propre faiblesse. Seulement Dieu peut nous préserver de tomber dans le pire des péchés. Notre propre force est très faible et dérisoire. Toute résolution humaine non appuyée par la grâce divine sont des clôtures de neige devant un soleil brûlant. Lorsque viennent les tentations, elles fondent rapidement. Autrement dit, qu'il faut demander des grâces prévenantes au Seigneur, sinon nos résolutions ne tiennent pas la route, comme on dit. Notre seule garantie pour combattre le péché se trouve dans la régénération par le Saint-Esprit. Sans elle, le pécheur sera très certainement vaincu. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Augustin trouva dans la régénération par le Saint-Esprit le seul remède capable de vaincre sa vieille nature. Il en est de même pour des millions d'âmes. Enfin, dernier conseil, ayons continuellement devant les yeux l'exemple brillant et béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons souvent sur les terribles souffrances qu'il a dû endurer de façon substitutive pour sauver nos âmes. C'est seulement en clouant nos péchés à la croix que nous pourrons effectivement les mortifier. Et comme troisième point, ce sont des petites leçons que j'ai trouvées sur Internet concernant la pornographie, non seulement en général dans le monde, mais aussi dans le monde chrétien. Et j'ai trouvé que ça valait la peine de les mettre parce que faut être au courant que c'est pas juste dans le monde qu'on écoute de la pornographie. Alors, j'ai rassemblé des articles qui traitent de l'ampleur du phénomène de la pornographie, de ses dangers et de ses ravages. Nous constatons que le phénomène est présent chez les chrétiens aussi. Alors, est-ce qu'ils sont des véritables chrétiens ou non? Mais on sait que les chrétiens peuvent pécher aussi. Nous devons réagir vigoureusement et examiner sérieusement les enseignements de la Bible à ce sujet et surtout à s'y soumettre. Les trois articles sont les suivants. Le premier, c'est les dangers de la pornographie. Le deuxième, ça s'appelle « Pornographie, fléau des temps modernes ». Et le troisième, ça s'appelle « Les ravages de la porno ». Alors, ce sont des articles que les auteurs disaient qu'on pouvait reproduire sans autorisation, en autant qu'on respecte la source et qu'on ne change pas le texte. Alors, le premier, c'est les dangers de la pornographie. Alors, c'est un organisme qui a fait le 9 septembre 2009, publiant les résultats d'un sondage sur la pornographie réalisé pour le compte d'un industriel des films X. Alors, c'était surtout pour la France, mais je pense pas que la situation est vraiment différente ici en Amérique du Nord ou au Canada ou au Québec. Alors, leur enquête disait qu'il ressort que 90% des Français ont visionné au moins une fois dans leur vie ou partie, tout ou partie d'une vidéo pornographique, un chiffre qui se partage entre 97% pour les hommes et 80% pour les femmes. Les jeunes adultes entre 18 et 25 ans déclarent avoir vu un tel film pour la première fois avant 16 ans. Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, analyse ces chiffres. Il dit je ne suis pas vraiment surpris par les résultats de ce sondage, car la pornographie concentre en elle les effets de la plupart des tendances lourdes de l'évolution de notre société. Et il dit, j'en relève 7. La première, nous sommes de plus en plus dans une société de l'image, et notamment de l'image mobile. Le statut et la place de l'image dans notre vie quotidienne sont totalement inédits. Deuxième, nous vivons dans une société de la performance, dans tous les domaines, école, travail, sport, politique. Et la vie privée est elle-même gagnée par cette valeur absolue. Troisièmement, nous assistons depuis une trentaine d'années à une véritable sexualisation de la société. Jamais le sexe et l'activité sexuelle n'avaient été aussi présents dans les discours et les productions culturelles. Quatrièmement, nous vivons dans une culture de la transgression, où la transgression est aussi valorisée que l'interdit. Les tabous sautent les uns après les autres. Cinquièmement, nous vouons un culte au développement personnel. Notre modèle culturel est focalisé sur l'individu et son épanouissement, qui ne souffre aucune frustration. Autrement dit, ils disent « c'est mon choix ». Sixièmement, on constate une porosité de plus en plus nette entre notre vie privée et la vie publique, depuis les magazines jusqu'aux émissions de télé-réalité. Autrement dit, il n'y a presque plus de différence entre la vie privée et la vie publique à cause des émissions de télé-réalité. Septièmement, enfin, nous sommes en proie à de nouvelles addictions générées par le progrès technique. Les innovations technologiques permettent à tout et chacun d'accéder aisément, par un simple clic, à un apaisement technique de ses angoisses et de son vide existentiel, et cela dès le plus jeune âge, au risque de l'instauration précoce d'une polydépendance. La pornographie cristallise en quelque sorte la conjonction de ces diverses évolutions culturelles. Notons que Jacques Ellul avait prévu cette situation dès les années 40, en poursuivant les courbes d'un phénomène alors embryonnaire. Selon le sondage, l'engouement pour la pornographie se remarque aussi chez les femmes. Cette évolution concerne en effet toutes les catégories de la population. Il s'agit d'un mouvement de banalisation, d'un nouveau rapport à l'altérité qui ne concerne plus seulement la relation du mâle prédateur à la femme objet, mais qui se manifeste comme une réification généralisée. Les effets secondaires de la pornographie se ramènent à un découplage, une connexion entre jouissance sexuelle et sentiments amoureux. Dans la pornographie, l'autre est instrumentalisé, réduit à un objet pour soi. Le principe éthique qui est mis en cause par la pornographie est celui de la dignité, qui est bafouée. La dignité consiste à considérer que chaque personne a sa fin en elle-même. Elle ne peut donc être mise au service d'une fin extérieure à elle. C'est la thèse du philosophe Emmanuel Kant que nous trouvons déjà dans plusieurs textes bibliques. L'être humain comme image de Dieu, le corps comme temple du Saint-Esprit. Un autre effet secondaire plus pratique est la propulsion du modèle pornographique comme norme de la sexualité. On risque alors d'exiger du partenaire sexuel, mais aussi de soi, que l'on se conforme au modèle, que l'on fasse preuve du même type de performance que dans les films X. C'est se condamner à de nombreuses déceptions, de frustrations et de mépris de l'autre et de soi-même. Les garde-fous contre les injonctions de la pornographie résident dans une revalorisation de l'éducation sexuelle pour que les jeunes ne fassent plus leur apprentissage sur Internet, mais aussi dans une transgression de la transgression. Il ne s'agit pas de brider la sexualité, dont la pornographie n'est qu'une perversion, mais de témoigner de la valeur d'une sexualité vécue dans l'amour, la tendresse et le langage des corps. La sexualité, comme connaissance de l'autre, est valorisée dans la tradition biblique, mais toujours liée à l'amour. Il s'agit donc de reconnecter sexualité et amour. Le deuxième article, il est court, mais c'est, ça parle beaucoup concernant l'ampleur du phénomène. Alors, c'est le titre, c'est « Pornographie, fléau des temps modernes ». Alors, il dit « Cette semaine, j'aimerais commencer à aborder un sujet qui ne fait pas souvent la une des revues spirituelles, surtout de celles destinées aux pasteurs. Et pourtant, la pornographie constitue un problème rampant dans la vie de beaucoup de croyants et même de serviteurs de Dieu. De quoi s'agit-il? Pourquoi les hommes sont-ils plus attirés que les femmes? Comment s'en protéger? Est-il possible d'en être délivré? Est-il possible d'être chrétien et d'en regarder juste pour s'éduquer? Peut-on s'en inspirer pour la vie de couple? Puis-je en parler à mon pasteur sans être jugé? Si je suis dans le service de Dieu, où trouver de l'aide? Que dit la Bible? Voici un petit échantillon des questions que nous entendons le plus souvent à propos de ce sujet complexe sur lequel si peu est partagé ouvertement dans nos milieux. Tout d'abord, de quoi parlons-nous? La pornographie est la représentation complaisante de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. C'est la définition qui est donnée par Wikipédia. Alors, quelques chiffres. En 2003, il y avait 1,3 million de sites pornographiques sur Internet. En 2006, cette industrie a généré 97 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Plus de 72 millions d'adultes visitent ces sites mensuellement aux États-Unis. Chaque année, uniquement à Los Angeles, 10 000 films pornographiques sont réalisés contre seulement 400 films classiques. Seulement 10 % des adultes interrogés admettent regarder de tels films, mais 70 % des hommes entre 18 et 34 ans visitent de tels sites tous les mois. Alors, on voit qu'il y a une différence entre avouer puis la réalité des choses. Alors, ces chiffres ne sont qu'un pâle reflet de l'ampleur du phénomène de la pornographie. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à produire pour avoir une image plus précise de cette industrie. Mais regardons aussi aux statistiques axées sur les rapports entre le monde évangélique et la pornographie. En 1996, une étude menée par le groupe évangélique Promise Keepers, ou les gardiens de la promesse, rapporte que 50 % des hommes assistant à leur rencontre reconnaissent avoir été en contact avec du matériel pornographique dans la semaine précédente. 51 % des pasteurs aux États-Unis admettent que la pornographie sur Internet représente un danger potentiel. 37 % reconnaissent avoir ce problème eux-mêmes. Plus de 50 % des pasteurs aux États-Unis admettent avoir vu de la pornographie sur Internet. Focus sur la famille, je pense que c'est Focus on the Family aux États-Unis, organisation chrétienne d'aide à la famille, rapporte que 20 % des appels qu'elle reçoit sur ses lignes d'aide réservées aux pasteurs concernent des problèmes liés à la pornographie. 29 % des chrétiens aux États-Unis disent que regarder de la pornographie est une attitude sexuelle acceptable. Mais 50 % des pasteurs disent que la dépendance à la pornographie est le problème le plus grave rencontré dans leur congrégation. Les croyants aux États-Unis sont-ils plus atteints que ceux du monde francophone? Est-ce un problème qui leur est propre? Certainement pas. Mais la majorité des statistiques disponibles ne provient que de chez eux. Pourquoi tous ces chiffres? Pour nous faire comprendre que nous ne pouvons plus nous voiler la face et prétendre que la pornographie n'est pas une question spirituelle de première importance pour l'Église d'aujourd'hui. Elle affecte toutes les générations, toutes les couches sociales, y compris les croyants. 47 % des familles reconnaissent que cette question est un problème. En 2003, aux États-Unis, la pornographie était un facteur aggravant du divorce dans 2 cas sur 3. En 2003, les 2/3 des avocats spécialisés dans les divorces ont reconnu qu'un usage excessif de la pornographie concernait plus de 50 % des cas, alors que ce phénomène était inexistant il y a moins de 10 ans. Concernant les femmes, 28 % des personnes admettent être dépendantes à la pornographie sont des femmes. Alors, Today's Christian Woman rapporte que 24 % de ses lectrices sur Internet admettent avoir eu accès intentionnellement à de la pornographie. Une femme sur 6 reconnaît avoir ce combat. Quant aux enfants, l'âge de la première exposition à ces images est en baisse constante. 11 ans aujourd'hui, 9 enfants sur 10 à la tranche d'âge comprise entre 8 et 16 ans y ont été exposés au moins une fois accidentellement ou pas. Les 12-17 ans représentent l'un des plus importants groupes de consommateurs de pornographie. Cette exposition contribue à l'abaissement de l'âge de leur premier rapport sexuel et les place en grand danger face à des prédateurs sexuels. Sans parler des ravages dus à l'ampleur de la pédopornographie qui représente 20 % du marché, 100 000 sites web illégaux et plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pasteur, responsable spirituel de tout ordre, nous devons briser la loi du silence et nous mobiliser pour avertir et enseigner le peuple de Dieu contre ce fléau. On asservit les peuples plus facilement avec la pornographie que par des miradors. C'était l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn qui disait cela. Et le troisième, c'est vraiment le ravage de la porno. Alors, ça commence en disant « Mon mari regarde régulièrement des vidéos pornographiques, est-ce mal? Pourquoi est-ce que je me sens sale? » Et lui répond « Madame, vous soulevez des questions importantes et je vous remercie d'avoir osé les poser malgré leur caractère délicat. Les problèmes que vous évoquez sont beaucoup plus répandus qu'on ne le croit. Mais qu'est-ce réellement la pornographie? » Pornographie vient de deux mots grecs, porné, qui veut dire prostitution, et graphène, qui veut dire écrire. Il s'agit donc de la description de la prostitution ou, plus précisément, de la description détaillée d'actes sexuels de prostitution. Ainsi, de la même manière que la prostitution est l'échange de plaisirs sexuels contre de l'argent, la pornographie est la vente d'excitation sexuelle par image interposée. On paie des prostituées pour avoir du plaisir, on paie du matériel porno pour les mêmes raisons. Cette définition suffirait à elle seule pour nous renseigner sur le caractère pervers de la pornographie. Mais le mal contenu et engendré par elle va beaucoup plus loin. Hébreux 13:4 nous met en garde que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mot traduit par souillure est le mot grec porné. Alors Matthieu chapitre 5 verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Au travers d'histoires invraisemblables, la pornographie impose une vision mensongère de la réalité, de la vie et de notre sexualité. Elle présente généralement la femme comme une esclave sexuelle impatiente de répondre aux moindres désirs de l'homme. Elle induit de ce fait des rapports faussés entre l'homme et la femme, et l'homme qui s'y adonne aura du mal à ne pas jauger toutes les femmes, y compris la sienne, en termes d'anatomie et d'usage sexuel. Enfin, en réduisant l'acte sexuel à des relations purement génitales, ayant pour but l'excitation et la satisfaction physique, la pornographie ôte aux rapports intimes toutes leurs dimensions relationnelles. Il n'est donc pas étonnant que l'épouse se sente salie, déshonorée, rabaissée, réduite à l'état d'objet ayant perdu confiance en son mari et en sa propre capacité à le séduire et à le satisfaire. Elle se fait probablement le reproche de ne pas l'avoir comblée et se sent donc ainsi coupable de la situation. Elle est consciente que les fantasmes de son mari vont polluer leurs relations intimes. Elle désire protéger ses enfants contre cette influence néfaste. Elle déteste l'hypocrisie. Vous vous sentez peut-être ainsi, faut-il en parler à votre pasteur, une amie de confiance, une aide appropriée pour vous accompagner et vous aider à prendre la position la plus adaptée à votre situation? Quant à votre mari, il doit savoir que s'adonner à la pornographie est une forme de dépendance et peut détruire la vie, au même titre que l'alcool ou la drogue. Lorsqu'un homme est pris dans ce genre de tourbillon, il est comme intoxiqué par une convoitise toujours plus dévorante, car la pornographie ne satisfait pas. Elle provoque en effet une excitation insatiable et conduit progressivement à assouvir ses fantasmes en passant à l'acte et n'aide en aucune manière. Si certains hommes prétendent qu'ils ont besoin d'une telle stimulation, c'est bien le plus mauvais outil pour régler les difficultés qui peuvent surgir dans un couple sur le plan sexuel. Vous pouvez encourager votre mari à chercher une aide extérieure compétente, compatissante et digne de confiance. Ce sera indiscutablement un plus pour aller sur le chemin de la libération. Juste un petit partage personnel. J'ai connu un couple de chrétiens que j'ai connu il y a plusieurs années et j'ai assisté personnellement au bris de leur relation. Ils étaient mariés et que lui était rendu accro à un point presque inimaginable à ça, et sa femme l'a quitté. Alors, quand ils disent que ça conduit là au divorce, c'est vrai. Là. Et ce gars-là, il se prétendait chrétien. Alors, on va terminer par les trois applications que j'ai mises. Alors, la bonne compréhension du septième commandement nous amène à réaliser plusieurs faits. Les graves dangers qui sont liés à ces violations. Que le Seigneur nous commande de vivre saintement dans nos corps comme dans nos esprits. Que les péchés d'impureté ont des effets désastreux et qu'ils mènent vers l'impiété. Et que nous devons nous méfier de trop d'indulgence envers ces péchés. La deuxième application, les motivations pour le respect du septième commandement devraient être les suivantes. La vie est courte et le juge est à la porte. Que nous devons pratiquer la tempérance et la modération en toutes choses. Que Dieu nous voit constamment. Qu'il est impossible d'avoir des vues exagérées sur la gravité du péché. Et que le Seigneur Jésus-Christ devrait être l'objet de nos méditations. Et que seule la grâce divine peut nous donner la victoire. Implorons le Seigneur de nous donner des grâces prévenantes. Troisième application, demandons au Seigneur de nous sonder pour nous révéler nos manquements envers le septième commandement. Prions fervemment pour ne pas tomber dans les péchés de la pornographie. Soyons saints comme le Seigneur est saint. Par sa grâce et pour sa gloire.
Amen.